Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel.
Bonjour et dans la France à découvrir aujourd'hui, nous partons seuls, en couple, en famille, entre potes, mettre un pied devant l'autre et recommencer car avec la natation et le vélo, la marche, la rando, la petite balade est un des sports préférés des Français. Une activité saine qui devient à la mode, boostée par les confinements et le stress lié à cette épidémie que nous traversons. On compte ainsi dans notre pays 18 millions de personnes qui se baladent, qui marchent ou se promènent régulièrement. Pour eux, la France est donc un immense terrain de jeu puisqu'il y a 180 000 km d'itinéraire. Itinéraire balisé par la FFR, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, une fédé à la santé insolente, fière de compter 250 000 licenciés. Et les médecins recommandent de plus en plus la marche régulière comme un vrai médicament préventif. Bref, dans cette émission, vous apprendrez que le GR20 Corse n'est plus ce qu'il était. Comment vendre une bonne petite balade à pied à vos ados? Qu'est-ce que la marche produit dans notre corps? Pourquoi les bénévoles de la Fédération balisent? Et comment la marche en ville gagne du terrain? Amis auditeurs, attention, après avoir écouté cette émission, vous aurez envie d'acheter une bonne paire de chaussures, un bon sac à dos et bien sûr, une gourde, vous êtes prévenus.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel.
Et pour la France à découvrir, nous allons découvrir la randonnée, enfin redécouvrir, car beaucoup d'entre vous marchez, amis auditeurs de Sud Radio. Et pour en parler, nous accueillons Séverine Icaoui, directrice des relations extérieures de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Bonjour.
Vous allez bien, Séverine ?
Ah, parfaitement.
Je vous ferai pas l'offense, vous demandez si vous êtes venu à pied, non pas du tout.
Non, j'habite un petit peu loin pour être venu à pied, et puis c'est pas très beau sur Paris aujourd'hui.
C'est un peu moche. Docteur Catherine Cabani, vous êtes médecin fédéral et diabétologue, et vous animez un club rando santé. Et vous nous parlerez des bienfaits de la marche qui sont nombreux. Nous accueillerons aussi Daniel Bidot, qui est président de la commission Sentier Itinéraire et anime le Rando Évasion à Reims. Et puis Sophie Chipon, qui nous parlera, elle, de l'Europe. Mais alors tout de suite, on va commencer avec vous, Séverine. Parlez-nous de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. J'ai dit qu'elle avait une santé insolente, c'est vrai. 20 000 bénévoles, 8 000 baliseurs, 10 000 animateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Ah, qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Plein de choses.
Mais certainement plein de choses. Déjà, il faut consolider ce bel édifice. Hein. 1947.
C'est ça.
Ouais, 1947.
Personne n'était né autour de cette table.
C'est ça. Le balisage du premier GR,
ouais.
Qui bizarrement n'était
alors,
pas
un
le GR.
GR pour les non-initiés.
Alors, le premier sentier de grande randonnée.
D'accord.
GR qui sont ces grands itinéraires qui, on va dire, sillonnent le territoire, qui souvent couvrent plusieurs régions, plusieurs départements.
Mm-hmm.
Alors, vous citiez tout à l'heure le GR20, très emblématique en Corse. Moi, je vous parle du GR3 qui a été le premier itinéraire à être balisé en France, qui longe la Loire.
Ah ouais,
voilà,
c'est le premier GR de France.
Qui a été balisé.
Dans quelle ville à peu près? Dans quel coin de la Loire?
Orléans.
Ah, Orléans.
Juste
tout...
à côté d'Orléans, la première balise.
Mm-hmm.
Et puis bah, voilà, on peut en citer beaucoup. Le GR préféré des Français cette année?
Et alors, il paraissait, on dit, hein, c'était le Corse.
Alors?
Pas du tout.
Alors, ça dépend... Quels critères on prend?
Ah.
Jusqu'à présent, ce qui nous permettait de dire que les GR avaient, on va dire, le goût, l'enthousiasme des randonneurs, c'était les ventes de nos guides.
D'accord.
Et le GR20 a été pendant effectivement très longtemps le guide, le topo guide de la fédération le plus vendu. Mais depuis 5 ans, on propose chaque automne, au mois de novembre, sur le site internet de la Fédération, on propose donc aux internautes randonneurs d'élire leur GR préféré pour l'année suivante.
Comme le village préféré des Français.
Oui, le village préféré des Français, ou Miss France, comme vous voulez.
Ou Miss France, bien sûr, ou les deux. Tout
voilà. Et donc, pour l'année 2022, c'est le Tour de Belle-Île-en-Mer.
Ah ouais.
Le GR340.
Qu'est-ce qu'il a de spécial et de génial, ce tour?
Alors, bah, ce qu'il a de
génial... Il est sur la côte?
C'est ça, c'est qu'il ne quittait jamais la mer des yeux en randonnant. Donc ça, c'est juste du bonheur.
En combien de temps le fait, celui-là?
Alors, ben... Bah, Si vous voulez le faire d'un seul coup, c'est une dizaine de jours.
Ah, quand même, oui.
Mais par petits morceaux, c'est bien aussi. Surtout que Belle-Île, c'est très très bien organisé. Vous avez un service de bus qui vous permet de construire des étapes et de retourner à votre lieu d'hébergement le soir et puis de reprendre une autre étape le lendemain. Donc c'est une très très belle destination en ce moment.
Docteur, est-il vrai qu'il y a un effet Covid sur la marche depuis 2 ans et qu'on insiste de la part des Français à un retour vers des activités de plein air et une reconnexion avec la nature, et donc avec la santé?
Oui, le retour aux activités de plein air est évident. On a bien vu aux sorties des confinements qu'il y avait une envie d'être dehors. En plus, après le premier confinement, il était extrêmement beau, donc tout le monde était dehors. Et puis, on voit cette année, et l'année dernière aussi d'ailleurs, à la rentrée de septembre, vraiment une augmentation du nombre de personnes qui courent, qui marchent, qui sont vraiment à l'extérieur. Et en randonnée, pas seulement en randonnée, mais aussi en marche nordique, puisqu'on s'occupe aussi de la marche nordique, on voit énormément de gens après le Covid. Donc, un effet Covid. Et puis, quand même, on dit beaucoup maintenant que l'activité physique à l'extérieur améliore l'immunité. Donc, tout le monde essaye de faire quelque chose pour
ça. Ça, c'est vrai, il y a des études cliniques qui le prouvent, qui le montrent. D'accord. Et avant de parler un peu justement de ces effets bénéfiques sur la santé, on va écouter la définition de la marche en 97 que nous donnait Benoît Poelvoorde. Écoutez, vous me direz si vous êtes d'accord.
Allez, randonneur.
Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature.
Et on est en paix. On n'est pas en compétition. Est-ce que c'est ça l'esprit de la marche à la fédération ?
Ah bah, je crois qu'il a tout bon dans cette définition.
Ah, il est bon, hein.
Effectivement. Mm-hmm. Quand on interroge nos licenciés pour leur demander pourquoi ils marchent, quelles sont leurs principales motivations ? Alors, le trio de tête. Le premier, c'est la convivialité, retrouver du monde. Partager cette activité avec d'autres. Souvent, alors, on souligne que la marche, c'est quand même une activité physique qu'on peut faire en discutant,
oui.
En tapant la bavette.
Mais qui est assez douce et non traumatisante, on est d'accord, docteur ?
Chacun a son rythme.
Oui.
Il y en a qui veulent la faire d'une manière soutenue, musclée et engageante physiquement. C'est
possible. Qu'est-ce qu'on peut risquer dans une marche ? Une foulure au pire, quoi. Enfin, ou une chute peut-être, mais bon.
Il y a quand même quelques chutes dans l'été. Et puis,
mais physiquement, sur les épaules, les muscles.
On va dire en ce moment une glissade dans la boue quand même.
Oui, ça peut se faire.
Oui, ça arrive quand même souvent, mais c'est souvent assez peu traumatisant.
Ouais.
Et non, au niveau des bras, il n'y a pas de risque. Il n'y a vraiment pas de risque au niveau articulaire ou traumatique. C'est vraiment très, très faible.
Alors justement, sur un plan physiologique, pourquoi c'est bon de marcher avec des bâtons, par exemple ?
Alors, ça peut aider de marcher avec des bâtons, mais ce n'est pas obligatoire.
C'est la marche nordique. Hein.
Alors, il y a deux façons de marcher avec les bâtons. En marche classique, les bâtons vont aider pour les montées et soulager quand même les genoux. Autant en montée qu'en descente. D'ailleurs, en descente, ça soulage vraiment bien les genoux et les articulations. Mmh. Donc, si on est soit un peu fatigué, soit un peu en surpoids, soit simplement si on veut en garder sous la pédale et faire plusieurs jours de suite... marcher avec des bâtons, ça peut aider. Après, en marche nordique, c'est différent. Le bâton est un accessoire qui permet une propulsion. Donc, il y a un geste de marche nordique.
On ne s'appuie pas dessus,
non,
en fait.
Pas du tout.
D'accord.
On pousse à l'arrière.
Ah, ok.
Voilà. Et là, on augmente nettement la vitesse de marche. Et là, c'est vraiment une activité plus physique.
Mmh. Il y a une marche géniale que j'ai testée il y a 2 ans. C'est le longe-côte. Ah, j'ai trouvé ça formidable. Dans la mer, jusqu'à la taille, et on fait 1 km ou 2. C'est top, ça. En plus, ils sont souvent des femmes, on est entouré que par des... Si, c'est vrai quand même, c'est très féminin le longe-côte.
C'est très féminin. Alors le longe-côte, oui, c'est une activité qui s'est développée beaucoup depuis 5-6 ans.
Ouais.
Alors au départ, c'est une création de Thomas Wallin, qui était un entraîneur d'aviron, et qui cherchait justement une activité physique pour ses athlètes, pour donc justement travailler aussi le haut du corps et quelque part... comme vient de le souligner le docteur Cabani, la randonnée, effectivement, est peu engageante au niveau du haut du corps. Et le longe-côte, alors, avec en plus, effectivement, le fait d'être immergé jusqu'au diaphragme.
Et d'avoir cette résistance de l'eau.
Effectivement, complète l'exercice physique. Alors aujourd'hui...
C'est un peu cardio, du coup, non ?
Un peu plus la marche terrestre.
Un peu plus musclé aussi, parce qu'il y a quand même une résistance.
Oui.
Et puis, il faut penser que aussi les gens marchent dans l'eau de mer. Donc, il y a un effet direct de l'eau de mer sur la santé qui est reconnu.
Oui, c'est vrai.
Et alors, ce qui est amusant de souligner, c'est que dans les définitions, la randonnée, c'est pas la compétition, c'est
non.
Chacun à son rythme. Oui. Eh bien, le longe-côte fait une petite exception à la règle, puisque c'est notre grande activité compétitive au sein de la fédération, puisqu'il y a un championnat de France de longe-côte.
D'accord.
Avec donc des clubs, avec des sélectives dans les régions et des clubs qui sont engagés dans un championnat de France. Donc, il y a aussi ce volet compétition. Engagement physique et donc rendez-vous pour le prochain championnat de France au mois de juin à Sangatte.
C'est génial. À Sangatte, ça se passera ?
En 2022, ça se passera à Sangatte.
Et je crois qu'il y a 14 000 adhérents, c'est ça, pour le longe-côte.
Licenciés spécifiquement longe-côte, oui, on est dans ces chiffres-là.
Et c'est croissant ?
Et c'est croissant depuis, je vous dis, 5-6 ans.
Très bien. Restez donc avec nous, auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, nous partons dans le Grand Est pour de bonnes idées de rando, au milieu des vignobles, et vous saurez pourquoi et comment 8000 bénévoles de la Fédération balisent rien que pour vous.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel.
Et retour avec la Fédération française de la randonnée pédestre, avec Séverine Icaoui, directrice des relations extérieures, et le docteur Catherine Cabani, médecin diabétologue, qui anime elle-même un club de rando santé. Bravo docteur, c'est bien, parce que la santé c'est important, et la marche y participe. C'est vrai que ça peut être un médicament préventif.
Pas seulement préventif, curatif aussi.
On en parlera tout à l'heure, ce sera très intéressant de développer ce volet. Mais pour l'instant, nous accueillons Daniel Bidot, président de la commission Sentiers et Itinéraires, Fédération française randonnée Grand Est. Bonjour Daniel.
Bonjour à tous.
Oh, on est ravis de vous entendre, cette voix dynamique, comme tous les adhérents de la Fédération française de randonnée. Vous allez bien ?
Très bien.
Alors, vous, Daniel, vous êtes dans un paysage de vignobles, vous êtes à Reims, les Ardennes, la vallée de la Meuse, le massif de l'Argonne, entre Sainte-Ménéhoul, Verdun, une centaine de kilomètres de randonnée, le lac du Der, tout ça, c'est votre terrain de jeu à vous ?
Oui, tout à fait, mais il y a beaucoup plus de 100 kilomètres.
Ah bon ?
Donc, rien que dans la Marne, il y a 1400 kilomètres de chemin de randonnée.
J'ai dit 100, mais il manque un zéro, effectivement.
Il manque un zéro.
Alors, votre travail consiste, vous, Daniel, à baliser, entre autres, les sentiers de randonnée. Comment vous faites ? Ça vous prend combien de temps par an ? Et ça consiste en quoi ? Vous mettre de la peinture rouge et blanche sur les petits arbres, c'est ça ?
Ah, c'est pas uniquement que ça. Bon, premièrement, j'anime, en fait, 80 à 90 baliseurs rien que dans la Marne.
D'accord.
Pour les 1400 kilomètres, donc, de sentiers. Donc, le travail consiste, bien entendu, à effectuer ces balises ou à mettre des balises, des plaquettes sur, donc, les différents supports que l'on peut trouver, mm-hmm. de telle façon, en fait, à guider les randonneurs.
D'accord.
Mais au-delà de ça, on a un rôle aussi de promotion du territoire. Hein. C'est-à-dire créer des, en fait, aménager le territoire et mettre en valeur le territoire par la randonnée.
D'accord.
Donc, pour cela, on crée tout un ensemble d'itinéraires et on les valorise par des publications type Topoguide et bientôt maintenant par le numérique.
Et alors, votre métier, votre action au sein de la fédération, c'est pas seulement baliser, c'est aussi animer. Ça consiste en quoi animer ? Moi qui suis un particulier, est-ce que je peux vous appeler pour vous demander de m'emmener sur une rando ? Comment ça se passe ?
Alors, là, ici, on rentre dans le rôle d'un animateur
oui.
au sein d'une association.
D'accord.
Alors, effectivement, je suis au sein de mon association, je suis président depuis près de 15 ans et je suis animateur depuis 20 ans. Alors, un animateur, c'est un rôle, en fait, assez complexe puisque, au préalable, il doit bien sûr préparer sa randonnée, c'est-à-dire mm-hmm. créer l'itinéraire qu'il va faire. Et ensuite, il va donc, assurer le déplacement en fait du groupe, ceci en toute sécurité.
D'accord. La première des préoccupations, c'est la sécurité et de ne pas se perdre.
C'est la sécurité. Et ensuite, il y a la gestion du groupe.
D'accord.
Essayer d'avoir un maximum de convivialité, le lien social aussi qui permet justement de sortir les gens de leur individualisme. C'est des points que l'on met en avant. Et puis, bien entendu, vous avez l'activité physique, hein, qui est mm-hmm. le support, hein, et qui est donc le gage d'une bonne santé.
Et est-ce que vous racontez le paysage, ce qu'on y Alors, voit, le entendu, patrimoine ? Est-ce que vous faites entendu. Des blagues ? Comment ça ?
Voilà.
Vous animez le groupe, quoi.
On anime le groupe et, bien entendu, on apporte tous les conseils et toutes les informations en cours de la randonnée.
D'accord.
Donc, ça, c'est pourquoi il y a une préparation un petit peu plus importante pour parler du patrimoine, parler de tout ce qui est flore que l'on pourra rencontrer, et puis les conseils, disons, en cours de route sur l'utilisation des bâtons, on vient d'en parler, mais aussi sur le choix d'un équipement ou d'autres choses.
C'est vrai, on en discutait hors antenne avec le docteur Catherine et avec Séverine, le docteur Catherine, et avec Séverine, c'est vrai que le plus dur, c'est le premier pas, c'est d'aller se motiver pour marcher. Or là, en faisant appel à la Fédé ou à vous, une association, on est au sein d'un groupe et on s'automotive entre nous. On s'appelle, on dit tu viens dimanche, il pleut, ben viens quand même. Alors c'est ça qui est bien.
Voilà, c'est un effet d'entraînement qui est en fait très fort. Il y a, au niveau des associations, il y a le bouche à oreille, s'est fait. Il y a aussi au niveau de notre association, on essaye d'avoir une activité tous les jours, donc en fait avoir un planning qui est très large. Et puis ensuite, l'activité physique est mise en avant. Et ceci, comme vous l'avez bien dit, c'est un effet d'entraînement. En fait, on va revoir des amis et on s'occupe un tout petit peu moins du temps.
Très bien. Séverine, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je crois qu'il y a un autre élément qui est très important et qui est une réponse que peut apporter nos clubs et nos animateurs. C'est que, alors, je ne crois pas beaucoup me tromper en disant qu'aujourd'hui, à peu près 80% de la population vit en ville. Mmh. Et que c'est vrai qu'aller dans la nature, on n'a pas forcément les codes. On ne sait pas comment forcément s'y prendre. On peut avoir peur de se perdre, de ne pas maîtriser l'orientation, de ne pas maîtriser les milieux qu'on traverse. Et pour ces urbains, primo pratiquants, oui, comme vous le soulignez, eh bien, c'est bien au sein de nos clubs et avec des gens comme Daniel, ils sont plus de 10 000 répartis sur tout le territoire, quelque part, ils sont un peu les passeurs, ceux qui vont vous permettre d'y aller, quoi. Mm-hmm. Et vous sentir bien dans cet univers qui ne nous est plus familier depuis un certain nombre de générations.
Parce qu'on a perdu le sens de la marche. Et il faut noter aussi qu'on peut marcher en ville, qu'il y a de nombreux sentiers de randonnée en ville, que c'est un peu la tendance du moment d'ailleurs, même chez les jeunes, enfin surtout chez les jeunes en ce moment, je trouve. Ils regardent des applis, ils savent combien de minutes ils ont, et ils disent, plutôt que prendre le métro ou le bus, je vais marcher 18 minutes, c'est pas la mort. C'est vrai, c'est vraiment la tendance.
Alors,
prenons
ville,
Paris, par exemple. Au hasard Paris.
Alors, surtout que Paris, en la matière, a l'histoire, parce que les premiers itinéraires dans Paris qui ont été balisés, ce sont deux traversées, la Nord-Sud et la Est-Ouest, qui relient les deux bois, Vincennes et Boulogne, et qui ont été balisés il y a plus de 20 ans maintenant. Donc effectivement, là, il y a toute une histoire. Et puis alors, ça,
donc il y a des petites indications de balises.
Regardez bien
sur
les Parisiens,
ah,
sur
ça.
Les poteaux,
ah, oui,
sur les réverbères. Jaune et rouge, absolument. Et donc, ça s'est développé et nous avons inauguré, alors ça fait 2 ans maintenant, le nouveau GR parisien, qui est le GR 75. C'est foulé pour trouver le numéro.
Ah ouais, c'est brillant.
Mais qui fait 50 km, qui en fait fait le tour de Paris.
Ça, c'est bien.
Et qui privilégie de passer là, sur des sites où se sont déroulés les Jeux Olympiques en 1924.
Il y a 100 ans.
Et où se dérouleront les Jeux Olympiques en 2024.
La boucle est
donc
bouclée.
Donc rendez-vous aussi sur ce bel itinéraire.
Bravo.
Parisien. Mais
on peut le faire la nuit.
Ah ben, on peut le faire
quand
on
veut.
Le faire la nuit.
La marche est libre.
Absolument. Et puis, en milieu urbanisé, vous jonglez avec les transports en commun pour arriver à un endroit, repartir d'un autre. Ça permet aussi une souplesse, une facilité. Puis, il se met à pleuvoir où vous êtes fatigué, vous rentrez dans un bistrot, vous reprenez le métro.
Oui.
C'est quand même très agréable.
Docteur, les bénéfices de la marche en milieu urbain, il faut quand même le faire, même si on sait que c'est pollué, même si on sait
alors,
que c'est pas génial.
Effectivement, il y a la pollution, mais des études ont montré que même avec la pollution, on a un bénéfice de la marche. Sauf, alors il y a quand même un cas particulier quand on a une alerte de pollution avec les particules fines. On peut regarder les applis, on a Air Paris pour nous, ici à Paris, et qui nous dit effectivement quand une alerte avec des particules inférieures à 10 microns, que là, il faut éviter. Alors il faut éviter pour les personnes fragiles en particulier, et aussi pour les sportifs de haut niveau qui ont tendance à travailler, à marcher ou à courir un peu trop vite. Mais autrement, en temps normal, c'est quand même plus intéressant pour la santé de marcher, même malheureusement, avec la pollution. Mais comme disait Séverine, on a balisé maintenant des itinéraires où on n'est pas obligé de marcher derrière les camions. Et on a certains chemins piétons qui sont prévus justement pour, et qui sont peut-être des fois plus courts de passer par là que de prendre la grande avenue.
D'accord.
Donc il faut penser à les regarder.
Alors l'art du balisage, Daniel, c'est un art, n'est-ce pas? Il faut quand même faire attention où on balise, sur quoi on balise, comment on balise, quand est-ce qu'il faut rebaliser? C'était ma question.
Oui, bien sûr. c'est tout un art. Parce que ce n'est pas uniquement le fait de faire des balises, c'est
tous les 15
de
mètres,
savoir
tout
exactement où on va les mettre. Hein, voilà, c'est ça. C'est-à-dire on doit éviter toute pollution visuelle, c'est-à-dire mettre des balises un petit peu partout, mais il faut que le randonneur puisse la trouver là où facilement. Il va chercher facilement.
Combien voilà. de types de balises il y a ? Les rouges et blanches, c'est GR, c'est ça ?
Alors voilà, il y a le rouge et blanc qui est le GR, vous avez le jaune et rouge, c'est le GR de pays, et vous avez le jaune qui sont donc les PR, petites promenades, petites randonnées. Voilà.
Alors j'ai appris, Daniel, que vous, en tant que maître baliseur du Grand Est, vous êtes allé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Saint-Pierre-et-Miquelon ?
Mais il y avait deux missions. Il y avait d'abord apprendre donc le balisage, former donc des baliseurs au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en même temps revoir un petit peu l'architecture des chemins de randonnée.
D'accord. Hein,
donc les conseillers au niveau de l'architecture.
Ils avaient déjà un chemin central, c'est ça, à Saint-Pierre-et-Miquelon ?
Ils avaient déjà tout un ensemble de chemins. Ils ont environ une centaine de kilomètres de chemins de randonnée, hein, même si c'est une petite île. Mm-hmm. Et on a transformé en fait l'ensemble de ces chemins de randonnée en ce qu'on appelle des réseaux de carrefour, c'est-à-dire pour donner en fait toutes les possibilités aux randonneurs de pouvoir utiliser tel ou tel tronçon à leur convenance et constituer ainsi la longueur de la randonnée qu'ils souhaitent.
Rappelons que dans les Dom-Tom, c'est quand même un terrain de jeu formidable pour la randonnée. Je pensais à La Réunion, on en parlait. Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe, Martinique. Oh, c'est génial.
Il y a de très beaux. Je connais.
Nouvelle-Calédonie.
Il y a un beau GR en Nouvelle-Calédonie.
D'accord. Alors, l'avenir du balisage, est-ce qu'il est malheureusement en train de disparaître ? Parce que maintenant, avec les applis, on n'aura plus besoin d'aller voir sur les arbres s'il y a des petites marques. On va se débrouiller tout seul avec le GPS, avec tout ça.
Oui. Alors ça, c'est la grande polémique du moment.
Ah.
Bon, il est bien certain que...
Ça polémique à la Fédération, donc.
Ça discute.
Ça discute. Bon, polémiquer, non, c'est un grand mot. Disons que, voilà, il y a des prospectives et il est bien certain que le numérique aura tendance petit à petit à remplacer les balises sur le terrain.
Moi, je dis que dans 10 ans, le balisage, c'est mort. 10 ans.
Voilà. Je pense, comme vous, une dizaine d'années, le balisage, effectivement, sera d'une autre sorte.
Tout le monde sur son téléphone, bien sûr.
Tout le monde aura les applications sur le téléphone, mais par contre, je pense quand même que les carrefours, c'est-à-dire les points d'intersection entre les chemins de randonnée, seront toujours marqués, parce qu'en fait, ça sera un point de balise pour constituer, en fait, l'itinéraire que l'on souhaite.
Merci beaucoup Daniel Bidot, président de la commission Sentiers Itinéraires, la fédération Randonnée Grand Est. On poursuit l'émission et on se retrouve dans un instant avec Catherine Cabanier un peu plus longuement, médecin diabétologue qui vous révélera tous les derniers secrets et bienfaits de la marche. Perte de poids, tension artérielle, mauvais cholestérol, diminution du stress, on vous dit tout, à tout de suite.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel.
Et dans la France à découvrir, nous parlons de marche avec la Fédération française de randonnée pédestre de France. Mais c'est vrai, c'est important de le dire. Et avec le docteur Cabanier, on va parler un peu plus des effets de la marche sur la santé. Alors on parlait tout à l'heure de la perte de poids, la tension artérielle, du mauvais cholestérol, de la diminution du stress. Est-ce que c'est vrai que tout ça est concerné par la marche et que la marche aide à lutter ?
Absolument, il y a deux versants. Pour voir l'effet de la marche sur la santé, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On prévient un certain nombre de maladies, donc la prise de poids, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, en particulier cancer du sein, cancer du côlon et cancer de la prostate, sont vraiment liés à l'activité physique. On est dans la prévention primaire et puis après ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire que quand vous avez déjà la maladie, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de complications, pour le diabète par exemple. On évite les complications ou pas de récidive pour les cancers ou pour certaines maladies. Donc là, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Et la marche, bon, toute activité physique, on va dire d'activité d'intensité modérée, a une action sur tous ces paramètres.
Et physiquement, concrètement, comment on peut mesurer les effets de la marche sur le corps humain ? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement ? Qu'est-ce que ça libère ? Qu'est-ce que ça vient faire dans le corps, la marche ? Au bout de 5 minutes, 10 minutes,
voilà,
une heure ?
Donc, au bout de 5 minutes, en général, vous avez juste un petit peu chaud, voire éventuellement les genoux qui se dérouillent et un petit peu mal.
Donc,
parce
c'est déjà
que
bon
c'est
pour les articulations.
Voilà, mais c'est peut-être pas au bout de 5 minutes que ça fait que c'est le mieux. L'action de l'activité physique comme ça, modérée et d'assez longue durée, c'est sur, on dit sur les endorphines, c'est-à-dire sur les bonnes hormones et sur les hormones qui nous font du bien au cerveau et qui sont bons pour le moral. Et ça, tout le monde le reconnaît, même quand il pleut, on se sent bien dès qu'on marche. Déjà, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on est avec les copains et qu'il y a la convivialité qui joue énormément, mais aussi le fait de se mettre en mouvement, d'augmenter la circulation. Dans le temps, on disait ça fait circuler le sang, il n'y a pas,
c'est tout à fait ça.
Mmh. Donc ça fait circuler le sang dans le cerveau aussi, dans les artères, et puis dans tous les organes. Donc le système cardiovasculaire et puis les organes qui les vaisseaux qui vont irriguer les glandes, et donc on va avoir une stimulation d'un certain nombre d'hormones.
D'accord, donc c'est plutôt bénéfique, c'est quelque chose qu'il faut faire. On recommande une demi-heure par
Alors une demi-heure, c'est le minimum vital, minimum syndical, okay. Ça c'est obligatoire.
N'allons
ça,
pas plus bas.
En dessous, c'est vraiment pas possible, c'est vraiment limite. Après, on recommande bien sûr d'en faire beaucoup plus, de faire des marches d'une heure, des promenades de deux heures et des randonnées de toute la journée quand on peut, aussi souvent qu'on peut.
Est-ce que la marche sur mon tapis dans mon salon, ça marche aussi ?
Alors, ça marche aussi, sauf que vous n'allez pas avoir la convivialité,
ah oui.
Vous n'aurez pas le grand air, l'air pur, vous n'aurez pas l'effet des essences des arbres dans la forêt. Vous n'aurez pas la lumière qui va jouer sur la vitamine D. Et puis, vous n'aurez pas tous les petits dénivelés, toutes les pierres qu'il va falloir, sur lesquelles vous allez travailler la proprioception, c'est-à-dire votre équilibre.
La proprioception
Voilà, c'est-à-dire le fait que quand on met le pied sur un caillou ou sur une pierre, on ne se casse pas la figure immédiatement.
Tout de suite, on se corrige.
Parce que le corps corrige.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment un travail d'équilibre qui est important. Donc tout ça, vous ne l'avez pas sur un tapis de marche. Mais c'est vrai que quand on ne peut pas faire autrement, quand on avait les confinements, quand il y a des personnes qui n'ont qu'une heure et puis qui ne peuvent pas sortir, c'est aussi un complément qui peut être intéressant. Moi, je dirais que c'est un entraînement à pouvoir faire la randonnée après.
C'est vrai. Alors, parlez-nous de ce concept qui commence à fleurir un peu partout, qui est le travail en marchant. Vous y êtes favorable, évidemment, vous l'encouragez.
Voilà, absolument. Le travail en marchant, donc ça ne veut pas dire marcher sur un tapis de course pendant qu'on fait les réunions. Mais on peut tout à fait, d'abord, tout seul travailler en marchant dans le parc à côté du bureau ou à côté de sa maison. C'est-à-dire
ou faire des réunions dans le parc. On va se voir dans la
déjà,
salle B12, on va tous au
seul,
parc.
Tout seul, méditer, préparer un article, préparer votre prochaine émission de radio. Tout ça, on peut le faire tout seul. Et puis, on n'est pas obligé de prendre des notes. Hein, on travaille sa mémoire et on écrit en rentrant. Et puis, bien sûr, faire des réunions à deux ou à trois, en allant marcher dans le parc d'à côté, marcher une heure, c'est aussi efficace. On n'a pas besoin obligatoirement de prendre des notes. On peut tout à fait enregistrer quelques mémos sur un téléphone. Maintenant, tout le monde fait ça.
Et ça, c'est une tendance dans les entreprises qui commence à fleurir. En France,
on pense que le fait de marcher quand même avec cette amélioration de la circulation à la fois cérébrale et puis le fait d'avoir de faire de l'exercice quand même améliore l'efficience. On est quand même plus efficace pour ces
plus
réunions,
percutant.
Absolument. Mmh. Et maintenant, il faut juste faire passer ça pour faire accepter qu'on ne va pas se promener et fumer une cigarette, on va marcher. Mmh. Et on va quand même travailler pendant 7 heures.
Séverine, comment on peut motiver des adolescents à marcher ? Parce que pour eux, la marche, c'est pas sympa, c'est nul.
Oh, c'est nul quand c'est papa et maman qui ont décidé de où il fallait aller et avec qui. Par contre,
je vois que vous connaissez bien le milieu ado.
Ouais, c'est ça. Il y a du vécu, cher monsieur.
C'est ça, je vois bien.
Il y a des jeunes qui marchent. Il y a beaucoup de jeunes
c'est
qui
vrai.
Marchent. Aller en montagne l'été, vous allez croiser des jeunes gens entre 18 et 25, 26 ans. Alors par contre, eux ont une approche un peu différente. Déjà, c'est souvent sur des itinéraires un petit peu engagés. GR10 dans les Pyrénées, par exemple. C'est avec une bande de copains de son âge avec qui on a envie de partager une aventure. C'est le bivouac.
C'est ça.
C'est une autre approche.
Et puis, aux parents aussi, de leur donner des challenges ou des envies.
Et des espaces.
C'est ça.
Vas-y.
Tiens, va grimper sur le rocher là-bas en deux secondes. Allez, je chronomètre.
Voilà. Et donc, en fait... Il y a plus une question de perception. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes qui marchent, on n'en parle pas beaucoup. Mais si vous demandez à l'UCPA, qui est quand même le grand spécialiste des séjours sportifs pour jeunes...
C'est un peu votre concurrent, l'UCPA ? Non, pas du tout.
Ah, pas du tout.
Non.
Pas du tout, on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux et on propose pas du tout le même type d'approche. Mais eux vous disent que chez les 15-25 ans, la randonnée pédestre est la troisième demande de pratique sportive.
Mm-hmm.
Donc si les jeunes marchent, pas comme les plus vieux.
Non, c'est vrai. Est-ce que dans le milieu médical, il y a des vertus réparatrices de la marche ? On la protège de la hanche, du genou ? Parce qu'on, d'habitude, on aurait tendance à penser que quand on se fait opérer de la hanche ou du genou, il ne faut plus bouger.
Alors, non, au contraire, il y a une vertu plutôt de récupération. C'est-à-dire que la prothèse de hanche, c'est quelque chose qui se fait de façon facile, où en général, il n'y a pas de séjour en rééducation après, et on demande aux gens simplement de se lever et de marcher.
On peut remarcher assez vite après, d'ailleurs ?
Absolument, et même immédiatement, en général, dès le deuxième jour.
D'accord.
Pour la prothèse de genou, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Le genou est une articulation très complexe. Mm-hmm. Donc, on demande aux gens de faire de la rééducation chez un kiné, et nous, on passe après la kiné. Une fois que le kiné a donné le feu vert, dit ça, il y a assez rééduqué, maintenant, vous allez marcher pour continuer de refaire la musculature.
Et on parlait des vertus curatives aussi. Quelles sont-elles ? Dans quel genre de maladies ?
Alors, dans beaucoup de maladies, on peut avoir un effet. Bon, en premier, je dirais sur le diabète, parce que là, c'est vraiment typique et puis c'est reconnu. C'est
ça veut dire que quand on marche, on voit le taux de diabète
C'est immédiat. Quand on disait tout à l'heure qu'est-ce qu'on a comme effet, alors c'est pas dans les 5 minutes, mais dans les 2 heures, les patients diabétiques ont l'habitude de mesurer leur glycémie au bout du doigt. Et ils le voient vraiment toujours au retour de la randonnée et pendant les heures qui suivent. Bon, s'ils n'ont pas grignoté tout le temps pendant la marche, évidemment, mais c'est vraiment typique et c'est très important, hein, au point qu'il faut souvent modifier les médicaments avant la marche et pendant.
D'accord.
Surtout quand c'est les premières fois et qu'ils ne sont pas entraînés. Donc là, c'est vraiment c'est mesurable, on le voit, on a
c'est
un
l'insuline
chiffre.
Qui baisse, qui monte.
C'est la glycémie qui baisse.
Glycémie qui baisse, d'accord.
Donc là, on a un effet direct. Après, c'est l'effet au long cours. Donc, par exemple, quelqu'un qui a perdu du poids en faisant attention avec un régime et une activité physique va stabiliser son poids grâce à la marche très, très régulière.
D'accord.
Parce que la perte de poids, malheureusement, ça se stabilise très, très difficilement. Et seulement grâce à une activité physique régulière, la marche, c'est ce qu'on peut faire le plus facilement.
Et je sais que ça peut aussi faire baisser la tension nerveuse, parce que je l'ai mesuré sur moi-même.
Voilà. La tension artérielle.
Tension artérielle, par c'est vrai.
Par la baisse de la tension nerveuse, justement.
Ouais, c'est vrai.
Et donc là, je vous parlais tout à l'heure des effets sur certaines hormones. Donc là, sur la surrénale, on va avoir un effet de diminution du stress. La glande surrénale étant la glande du stress qui fabrique du cortisol et de l'adrénaline.
Donc et ça, c'est pareil, c'est des
un effet
direct
sur la tension.
Clinique.
Absolument. Bon, il y a énormément d'études cliniques qui ont montré l'effet sur la tension artérielle, sur la glycémie, bien sûr, sur le stress.
Est-ce que la marche est contre-indiquée donc, à un moment donné ?
Alors oui, quand même, il y a une contre-indication qui est une maladie aiguë, une maladie infectieuse aiguë.
D'accord.
Quand vous êtes malade, vous avez de la fièvre, vous n'allez pas marcher comme vous allez faire aucune activité physique, vous n'allez pas nager non plus, ni pédaler. Il faut laisser le corps se réparer. Et il y a des recommandations des cardiologues du sport qui demandent de ne pas faire d'activité physique pendant une infection et dans les 8 jours qui suivent. Mmh. Donc la marche en fait partie, bien sûr.
Et dans les marches nordiques, marche en raquette, longe-côte, marche classique, quelle est la plus sportive ou celle qui demande le plus d'engagement ?
Alors là, ça dépend vraiment du terrain. La marche en raquette, si c'est en montagne alpine, ça demande énormément d'engagement.
Ouais.
Et puis, il y a aussi la lutte contre le froid. Il y a le dénivelé qui peut être important. Là, il peut y avoir un danger. Bon, le longe-côte demande de l'engagement physique, bien sûr. Mm-hmm. Mais bon, par définition, c'est toujours la même altitude. Et la marche nordique, c'est vraiment une épreuve d'athlétisme, avec une marche qui va de 6 à 10 km heure, pour ceux qui vont vite. Et donc là, c'est une marche, mais c'est une marche encadrée, c'est-à-dire que ça va durer 3 heures, avec un échauffement, des étirements à la fin, et un quart de séance qui ne dure pas plus de 2 heures. C'est pas de la promenade,
ouais.
C'est un peu différent.
Et quand on marche en loisir comme ça, est-ce qu'on doit se surveiller son souffle, adapter son souffle à sa marche, ou ça se fait naturellement ? Il n'y a pas besoin de...
Normalement, ça se fait naturellement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas respirer. Donc, on essaye, les animateurs peuvent aussi...
C'est aussi le rôle des animateurs, ça.
Alors, ça peut être un rôle d'aider quelqu'un qui ne sait pas respirer, qui se retrouve essoufflé dès qu'il a monté 50 mètres de dénivelé. Donc, de caler son souffle sur son pas. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin, oui.
Et surtout de ne pas parler, parce que qu'est-ce que les gens parlent en marchant, hein,
c'est... Alors c'est quand même très intéressant de parler, parce que la marche est une activité physique modérée, moyennement intense, et la définition, c'est qu'on peut parler,
d'accord,
justement, pendant...
Ça ne coupe pas le souffle.
Voilà. Et on apprend aux animateurs qui n'ont même pas besoin de se retourner, et quand ça ne parle plus derrière, c'est soit qu'ils les ont lâchés, et qu'ils ont, derrière ils ont oublié de tourner, soit que ça monte trop.
Ah ouais, et là, ils sont
trop vite.
Ah ouais, voilà. C'est ça, d'accord. Un dernier petit point sur la marche au Dax. C'est quoi la marche au Dax ?
Alors, la marche au Dax, c'est une discipline, en fait, c'est...
Sportive.
Ah, c'est, oui,
ultra
puisque
sportive.
C'est ça, c'est 6 km/h, c'est marcher à 6 km/h, sachant que vous et moi, normalement, on marche à peu près, voilà, à peu près à 4 km/h sur un terrain, on va dire, non accidenté et pas avec des dénivelés importants. Donc, la marche au Dax, c'est 6 km/h sur de longues distances.
D'accord.
C'est-à-dire que vous avez un capitaine de marche, vous devez suivre son rythme. Mmh. Et les marches au Dax, c'est entre 25 et plus de 100 km.
Génial, ça c'est bien.
Donc c'est effectivement un effort sur la durée. Mmh. Et donc, bon, c'est une
c'est
discipline.
De l'endurance.
C'est de l'endurance. Et encore une fois, c'est très, très encadré, très formaté.
D'accord.
Et c'est pour, on va dire, des personnes qui s'entraînent pour pouvoir arriver absolument à faire ce type de marche.
Mais comme nous, autour de cette table, avec une belle silhouette tonique.
C'est ça.
Voilà. Dans un instant, on va continuer, chers auditeurs de Sud Radio, à parler de marche et on va découvrir de nouveaux sentiers de randonnée. On parlera de l'Allemagne, de la Roumanie, de l'Italie, du Monténégro. Et vous saurez tout des tendances rando en Europe pour 2022 avec la Fédération française de randonnée pédestre.
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Jiquel.
Et nous sommes toujours en train de parler de la randonnée avec la Fédération française de randonnée pédestre, le docteur Cabani. Nous avons écouté Daniel Bidot et nous avons également sur le plateau Séverine Icaoui. Nous allons accueillir dans quelques instants Sophie Chipon qui nous parlera de l'Europe et de la marche en Europe. Mais auparavant, on va juste parler un petit peu de la rando santé que vous animez, docteur.
Oui, alors la Rando Santé a été créée en 2010 pour offrir la randonnée à tout le monde. Et on vient de vous parler de la marche au Dax, donc là c'est vraiment les grands sportifs qui font des marches rapides. Mm-hmm. Et puis à l'opposé, la Rando Santé, c'est justement pour les personnes, je disais tout à l'heure, en prévention secondaire, c'est-à-dire qui ont déjà des maladies, ou simplement qui ne peuvent pas, qui ne sont pas capables de faire 10, 15 ou 20 kilomètres, mais qui veulent quand même suivre les conseils de leur médecin et faire de la marche. Les personnes qui sont déjà malades ou qui ont des capacités physiques réduites doivent être encadrées. Et souvent, ils ne font pas de la marche, alors que leur médecin leur dit qu'il faut faire de la marche. Mais ils ne font pas parce qu'ils n'osent pas sortir tout seuls.
D'accord.
Ils n'osent pas... ils ont peur d'avoir un malaise, ils ont peur de se blesser. Et donc, on a créé la Rando Santé. Donc, on a des animateurs, comme vous a parlé Daniel tout à l'heure, mais qui ont une formation supplémentaire santé et qui vont encadrer ces petits groupes de personnes en rando santé. Donc c'est des randonnées qui durent en moyenne de 2 à 3 heures. Là, on disait tout à l'heure qu'on marche à 4 km/h. Alors là, on est plutôt dans les 2-3 km/h maximum.
C'est plus soft.
Mais ça permet vraiment à tout le monde de suivre. Et il faut penser que l'effet physique est aussi important chez ces personnes qui ne sont pas capables de faire 20 km. Mais du coup, en faisant 5 ou 6, on est dans les 6 à 8 km, on va dire, on rend le même effet sur leur santé que d'autres personnes plus entraînées qui vont faire 20 km.
D'accord.
Parce qu'ils ne sont pas entraînés. Donc, on a des groupes qui sont extrêmement variés au niveau des pathologies. En général, l'animateur ne connaît pas les pathologies de ses pratiquants. Et puis, en plus de la convivialité, il y a l'effet d'oublier la maladie. Mmh. Les gens y vont, et on a vu en rando santé, on a été les premiers à redémarrer après les confinements, parce que vraiment, c'était des gens qui n'osaient pas sortir tout seuls, et attendaient que ça, de ressortir avec leur groupe, leur club de rando santé. Voilà. Et puis d'oublier, quand on est malade, on pense un peu à sa maladie, et là, ils sont tous ensemble, et ils parlent d'autre chose que de maladie.
D'accord, très bien. Séverine, votre coup de cœur du moment sur un GR comme ça, au débeauté? Parce qu'on parle du GR20 Corse, mais vraiment, votre coup de cœur à vous, là
Alors, j'en ai beaucoup. Alors, pour sélectionner, je vais prendre le dernier sur lequel je suis allée.
Oui.
C'était aux vacances de la Toussaint dernier. C'était le GR34 en Bretagne, entre le Cap Fréhel et Saint-Malo.
D'accord.
C'est une côte que je trouve absolument magnifique.
Sublime.
Et donc, c'est peut-être pas mon coup de cœur, mais c'est le dernier qui m'a laissé des très, 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 très belles images.
Et vous, docteur?
Alors, moi, j'ai tendance à être toujours un peu sur le GR5 et les variantes du GR5 qui va des Alpes à la Méditerranée.
D'accord.
Et toutes les variantes qui font, où les paysages changent depuis les Alpes, le Jura, et puis après, toute la partie sud. Donc j'aime beaucoup ces régions très, très boisées et très vertes.
Et vous ne me parlez pas du GR738? Comment ça se fait? Je le connais bien, celui-là, au-dessus de Grenoble.
Alors, pour le coup, celui-là, c'est plutôt pour personnes sportives et entraînées. Bravo, vous le pratiquez.
Je l'ai pratiqué par petits bouts.
J'ai pas tout fait. Une bonne approche.
Non, mais c'est bien.
C'est un des derniers qui a été créé et balisé effectivement, et d'aucuns disent que c'est un vrai concurrent justement sur le volet sportif du GR20 en Corse.
Et la randonnée en ville ? Il existe un baromètre des villes marchables, j'ai vu sur votre site internet. D'ailleurs, on rappelle l'adresse du site.
ffrandonnée.fr.
Où il faut aller, où on trouve les informations sur
et
Rando
notamment
Santé.
Notamment les clubs qui proposent la Rando Santé que vient d'expliquer le docteur Cabani.
Alors j'ai envie de dire que la fédération se réveille enfin et prend enfin en compte la marche dans les villes avec une application et ne se laisse plus détrôner par les bicyclettes, les trottinettes. Ça y est, elle prend sa place.
Elle prend sa place. Et donc, elle a souhaité déjà prendre la température, donc pas un thermomètre, mais un baromètre, des villes marchables. Et où effectivement, alors ça a été une enquête en ligne qui a été menée pendant 3 mois au début de l'année. Presque 70 000 répondants. Et effectivement, l'idée était de dire, mais où en est et quelle est la perception des gens sur la marche en ville. Alors, beaucoup de choses ont été confirmées sur l'inaccessibilité des trottoirs envahis par tout et n'importe quoi, la vitesse des véhicules automobiles, la difficulté effectivement d'avoir plusieurs modes de déplacement qui peuvent se retrouver en conflit. Bon, et ça nous fait maintenant donc une belle matière pour travailler notamment avec les collectivités territoriales, les mairies, sur l'amélioration des conditions donc du déplacement à pied dans les villes.
Donc bientôt.
C'est un beau chantier que nous avons effectivement ouvert et rendez-vous fin 2022 pour le deuxième baromètre.
Fin 2022. Permet... Voilà. Mais l'appli, on l'aura quand ?
Alors, l'appli...
On en parlera plus tard.
Non, l'informatique étant ce qu'elle est... allez, à 2 mois près,
oui.
Je pense que l'appli sera lancée au mois de septembre 2022.
Génial, donc on aura l'appli de la fédération qu'on pourra télécharger et on verra comment
les itinéraires...
Dans toutes les villes de France. Les grandes villes.
Petit à petit.
D'accord. Sophie Chipon, vous êtes vice-présidente de la Fédération Européenne de Randonnée Pédestre. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Sud Radio.
Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce que j'apprends, Sophie, que les Allemands ont 3 fois plus de licenciés que nous ?
Eh oui, c'est historique, c'est culturel.
C'est ça.
La pratique de la randonnée outre-Rhin est inscrite, je dirais, au programme éducatif.
D'accord.
D'approche du monde, d'une manière générale.
Vous avez un très bel arrière-plan derrière vous. Vous êtes où, en Québec, en Écosse, où ça ?
Alors, cet arrière-plan, c'est sur la grande traversée du Mercantour.
Ah, très bien.
C'est une randonnée que j'ai faite il y a 2 ans.
Bravo, vous êtes raccord, pas mal. Fallait y penser. Un exemple, par exemple, de ce que vous faites au niveau européen. Je sais que vous qualifiez les sentiers, vous essayez d'uniformiser tout ça, et puis vous définissez des routes culturelles. C'est quoi les routes culturelles européennes pour marcher ?
Alors, les routes culturelles, c'est au-delà des itinéraires existants, c'est d'établir, je dirais, ce qui fait sens dans le chemin.
Mmh. Oh là, c'est beau.
Vous voyez ? Et donc, à partir du moment où on a une logique, qu'elle soit historique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit cultuelle, eh bien, c'est ça qui fait sens et c'est ça qui va déterminer, si vous voulez, la réalité de cette route culturelle.
Ça veut dire qu'on marchera et au fil des étapes, on aura comme ça du patrimoine à visiter, des choses, des bâtiments cultuels, une histoire lisible.
Tout à fait. Et ça fait partie du cahier des charges établi par la Commission européenne pour qu'une route culturelle soit reconnue en tant que telle.
Et la Via Francigena, qu'est-ce que c'est que cette Via Francigena, Sophie ?
Ah ben c'est une route de pèlerinage. Hein, ça va de Canterbury jusqu'à Rome.
Que dalle, hein. 600 bornes, non ? 800 ? Plus ?
Je ne sais pas, 1000, je ne me rappelle
plus.
Oh là,
2000. Il faut des mois pour la faire. Hein.
Exact, oui. Exact. Et c'est au-delà du chemin qui en soi va d'un point à un autre. Ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que tout le long de ce chemin, il y a fatalement des étapes, mais chaque étape est liée à un parcours, à une invitation, si vous voulez, à un parcours et qui est en lien avec ce pèlerinage.
D'accord.
Et donc tous les villages, toutes les villes, tous les lieux historiques qui jalonnent ce chemin, font partie du patrimoine de cette route, d'accord, de la Via Francigena, et cela forme une communauté. C'est-à-dire que c'est une association et tous les partenaires, je dirais, tous les acteurs qui sont de part et d'autre du chemin font partie de l'association et de l'aventure.
D'accord. Pour terminer, Sophie, les trois pays qui se développent en ce moment pour nos amis auditeurs de Sud Radio et qu'il ne faudra pas louper, les trois tendances.
Alors, les trois tendances, y a une grosse tendance actuellement autour du Monténégro. Mmh. L'office de tourisme de ce pays fait un gros travail de promotion de son territoire à travers justement la randonnée pédestre. Il y a également Chypre, qui a d'ailleurs fait appel à nos services, au service de la Fédération française de randonnée, et qui, au-delà de son itinéraire central qui traverse l'île, un petit peu comme le GR20 traverse la Corse, eh bien, ils sont dans la volonté de développer des itinéraires transverses.
D'accord. Hein. Donc la Roumanie, c'est la région de Transylvanie, hein, c'est de la forêt.
Alors la Roumanie, alors la Roumanie, ben, si vous voulez, pour 2021 et 2022, c'est là qu'a lieu une grande manifestation européenne qu'on appelle l'Eurorando, que la France a initiée en 2001 et qui, donc aujourd'hui, ben, permet à des randonneurs de toute l'Europe de se retrouver. Et du 11 au 18 septembre 2022, il y a une vingtaine de randonnées qui sont proposées autour de Sibiu.
Hein,
Sibiu, c'est une ville qui est au cœur de la Transylvanie. Et donc, les randonneurs sont appelés à se retrouver là-bas à cette période pour cette Eurorando qui est comme un festival de l'art européen. Eh ben, la randonnée.
On y sera, vous me reconnaîtrez facilement, j'aurai un sac à dos et une gourde. Donc, et des belles chaussures, parce qu'il faut des bonnes chaussures aussi pour marcher.
Ce que je peux rajouter au-delà des points clés de ces trois pays que nous avons cités, c'est qu'il y a des statistiques qui ont été établies très récemment en octobre 2021.
Oui.
Et je peux vous donner un chiffre qui va peut-être vous donner le vertige.
Alors, attendez.
En kilomètres, en Europe, d'itinéraire, c'est 1 500 000 kilomètres.
Ah mon Dieu! Mais...
Et sur ces 1 500 000, c'est-à-dire c'est 350 mètres au kilomètre carré.
Ah quand même.
D'itinéraire balisé. Et sur ces 1 500 000 kilomètres d'itinéraire européen balisé, il y a 1 200 000 qui sont balisés par des fédérations sportives, des fédérations européennes.
Hein. Très bien.
Et là, à l'intérieur de ce vaste réseau d'itinéraires, nous avons 12 itinéraires européens.
D'accord.
Et sur ces 12 itinéraires européens, qu'on appelle E1, E2 jusqu'à E12, sachez, monsieur,
oui, madame,
sachez, messieurs, mesdames, les auditeurs, que 8 itinéraires traversent la France.
Bravo! Merci beaucoup, Sophie, de cet éclairage et de ce point sur les réseaux de marche en Europe. C'était brillant. Séverine, il faut qu'on va bientôt se quitter. Vous avez trois choses à nous dire. Bah oui, je sais. D'abord, très rapidement, on a une minute. En prenant une carte d'adhérent à la Fédé, on gagne quoi ?
On gagne une très bonne assurance pour son activité. On gagne plein d'avantages partenaires. La livraison gratuite des topos, des réductions.
Alors ça, c'est le topo guide.
Ça, c'est la collection, enfin, un extrait de la collection des topo-guides de la Fédération. Effectivement,
ça, c'est la Bible.
230 titres au catalogue. Rendez-vous sur ffrandonnée.fr pour tous les découvrir.
Et puis, on notera également votre magazine trimestriel.
Abonnez-vous, Passion Rando, tous les trimestres, plein d'idées, plein de conseils pour découvrir de nouveaux itinéraires.
Très bien. Et les trois messages que vous voulez faire passer, il vous reste 29 secondes.
Alors,
rejoignez
la Fédé de trois façons. Rejoignez un club, venez randonner avec des potes encadrés par des animateurs formés et compétents. Faites un don sur mongr.fr pour nous aider à entretenir les itinéraires et les GR. Et si vous avez du temps, devenez bénévole au sein de la Fédération, on vous attend.
Bravo. Et il vous reste 6 secondes, docteur, pour dire la marche, c'est génial, continuez, marchez, c'est bon pour la santé.
Voilà, c'est bon pour la santé. Et comme on est en plein dedans pour l'épidémie, c'est bon aussi pour l'immunité, profitez-en, marchez.
Merci beaucoup, docteur Catherine Cabani et Séverine Ikaoui. Et on retrouve cette émission, bien sûr, en podcast, la suite avec Saroul, Pierre Chasseret et Laurence Perrault. Bonne soirée sur Sud Radio.